RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis, une émission 100% ballon ovale, 100% rugby ce matin à l'occasion de la Coupe du Monde. On s'est demandé si le sport était si le rugby était un sport de brut. On vous a prouvé que non, et on va s'intéresser dans cette seconde partie au sport, qui peut être un réel moyen d'intégration, un outil éducatif, d'inclusion sociale et territoriale. Et on va prendre l'exemple du rugby avec nos invités. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Si vous avez été membre d'un club de rugby quand vous étiez plus jeune, au-delà de l'aspect physique, était-ce une sorte d'école de la vie pour vous, où on vous a appris des valeurs citoyennes et sociales? Et si vos enfants ou petits-enfants font partie d'un club, est-ce que vous avez l'impression que ça les change, que ça les transforme? Et plus généralement, pensez-vous que le sport est un vecteur d'éducation et de citoyenneté? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et comme tous les mercredis, on parlera d'éducation avec notre chroniqueuse Marion Denis du think tank Vers le Haut, qui s'intéressera ce matin à l'inclusion à l'école. Ce sera vers 10h50. Et pour nous accompagner jusqu'à 11h, j'ai le plaisir de vous présenter nos invités. Bonjour Francis Carré.
Bonjour.
Vous êtes le coprésident d'une association qui s'appelle Drop de Béton. Alors Drop, c'est un vocabulaire du rugby, Francis?
Bien sûr. Pour le traduire en français, c'est le coup de pied tombé, qui est une figure qui sert pour la mise en jeu et qui pour aussi marquer des points. Le principe consistant à laisser faire un rebond au ballon et ensuite le frapper directement.
Et pourquoi
donc c'est un clin d'œil au rugby, effectivement.
Ouais. Et pourquoi Drop de Béton?
Alors la deuxième partie, le béton, c'est parce que notre association, qui a été créée il y a une trentaine d'années presque, a commencé à s'intéresser aux jeunes dans les cités. Et bon, quand on pense cité, on pense béton, même si on joue pas sur du béton, ou pas toujours, ou pas souvent. Mais c'est ça l'association, si vous voulez, du rugby avec les jeunes des quartiers dans les cités.
Merci Francis d'être avec nous dans cette émission. Dans un instant, on accueillera Dominique Mallaire. C'est le président de l'association Rebond, que vous connaissez également, je crois. Francis, qu'est-ce que c'est le rugby pour vous? Quelle place a le rugby dans votre vie?
Alors, je dirais que pour ce qui me concerne, il y a deux cases. Il y a deux cases différentes, mais qui communiquent beaucoup. La première, elle est personnelle, parce que j'ai pratiqué le rugby pendant une quinzaine d'années. J'ose dire d'ailleurs que même si j'ai arrêté vu mon âge il y a quelques années, il y a assez longtemps, dans ma tête je joue toujours, je suis toujours joueur de rugby même si je pratique plus. Et puis la deuxième case en quelque sorte, c'est se servir du rugby comme outil d'insertion à travers l'association dont je suis le coprésident, c'est pas une pratique du rugby en tant que telle, mais c'est l'utilisation comme outil pédagogique et comme outil d'insertion. Oui. Avec beaucoup de vertus, on y reviendra j'imagine, mais voilà les deux aspects qui font que je suis très attaché à ce sport et à cette activité.
Oui. Vous avez pratiqué le rugby, vous, quand vous étiez plus jeune? Oui, beaucoup.
Oui, pas mal. J'ai joué en universitaire, j'ai joué en équipe corpo, ensuite j'ai joué dans un club civil, donc j'ai joué un peu dans tous les registres. J'ai aussi un peu été un peu entraîneur, mais à un niveau modeste, mais bon, j'ai un peu touché à tout. Je parle du rugby à 15, évidemment. J'ai un peu joué au rugby à 7 aussi. Enfin bon, bref, j'ai fait un parcours passionnant que j'aurais regretté d'arrêter, mais effectivement, j'ai joué longtemps.
Et alors, la Coupe du Monde de rugby qui se déroule en ce moment en France, est-ce que vous avez l'opportunité de suivre les matchs?
Bien sûr. Alors, suivre les matchs, d'abord parce que nous sommes une association qui est basée à Bordeaux. Enfin, son siège est à Bordeaux, même si on a des antennes dans d'autres régions. Mais donc, à Bordeaux, il y a des matchs. Donc évidemment, j'ai la chance de pouvoir assister à deux matchs sur ceux qui sont retransmis, enfin qui ont lieu à Bordeaux. Et puis il y a évidemment tout ce qui est retransmis à la télé. Donc je suis de très près, évidemment, et particulièrement l'équipe de France, mais pas seulement.
Eh ben écoutez, voilà, et on espère une victoire de l'équipe de France, hein. Ça sent bon pour l'instant.
Ça, oui, mais on a pas fait forcément le plus difficile.
Ouais.
Mais bon, après, les difficultés dans ces compétitions-là, elles ne font que s'accélérer. Il faut donc espérer que le niveau de jeu va s'élever au fur et à mesure que la difficulté va approcher. Mais je suis assez confiant, même si quand même, il faut bien le reconnaître. Sur le papier, en tout cas, on a au moins une ou deux équipes devant nous.
Bonjour Dominique Malère.
Bonjour.
Bah, ça y est, on vous a retrouvé. Vous êtes le président d'une association basée à Toulouse et qui s'appelle Rebond, que vous allez nous présenter dans cette émission. Vous, le rugby, c'est pas forcément un sport que vous aimez particulièrement.
Alors, que j'aime, oui, j'adore le rugby, mais je ne l'ai pas pratiqué.
Ouais.
Hein, disons que j'ai commencé par le basket pendant plus d'une vingtaine d'années. Et j'ai découvert le rugby en venant faire mes études à Toulouse, ville de rugby par excellence. Et c'est là que j'ai découvert le rugby en universitaire et ensuite en corporatif. Voilà. Et c'est les valeurs portées par ce sport qui m'a amené à la présidence de Rebond. Ouais, mais voilà, j'ai un parcours qui n'est pas un parcours rugbystique. Mais par contre, j'adore suivre le rugby, bon, l'équipe de France, mais je suis un fervent supporter de l'ASM, donc de Clermont-Auvergne, un bon Auvergnat. On soutient l'équipe de sa région. Voilà.
Oui, vous faites concurrence quand même à l'équipe de Toulouse.
Ah, mais disons que quand je suis à Toulouse, je suis toujours un peu pris entre deux feux, comme on dit, mais le monde du rugby fait que quand vous êtes dans un stade, même si vous n'êtes pas fervent de l'équipe qui reçoit, vous êtes accepté dans les tribunes et tout se passe bien. Hein. Et ça, c'est aussi une des qualités du monde du rugby.
On va tout de suite accueillir Patrick au 04 72 38 20 23. Bonjour Patrick.
Bonjour, bonjour Melchior, bonjour à tous vos invités. Oui.
Eh ben oui. Bonjour et on vous écoute.
Bonjour. Alors non, mais voilà. Donc j'ai.
Vous êtes à Clermont.
Voilà, j'habite à Clermont-Ferrand. Donc Clermont-Ferrand, qui était qui est toujours une ville de rugby. Et à l'époque, moi, je jouais à l'ASM. Et votre auditeur aussi, d'ailleurs, était un supporter de l'ASM. Et moi, j'ai joué au rugby en tant qu'amateur. J'avais 12-13 ans, jusqu'à 17-18 ans, j'ai dû y jouer. Et ensuite, j'ai continué dans d'autres clubs. Et ce que j'ai trouvé d'intéressant dans ce sport, déjà, c'est le côté collectif, où nous, nous étions jeunes, minimes, Benjamin, à cette époque, on disait cadets. Et on apprenait, par l'intermédiaire de ce sport-là, déjà la notion de plaisir, de jouer. Il y avait ça, plusieurs notions, celle du plaisir de jouer, déjà, d'être ensemble, entre copains, le respect de l'autre aussi, de l'adversaire, et puis le respect du collectif, et non pas de l'individualité. Le dépassement de soi, il fallait toujours aller au-delà de soi-même, pour marquer des essais, et puis la joie de jouer aussi, oui. D'être ensemble, donc plusieurs notions qui ont un petit peu disparu là, hélas, depuis depuis que c'est devenu professionnel, et où on est passé dans un cadre un peu, je dirais, de l'entreprise, et de l'argent, bon, enfin, qu'importe, c'est comme ça.
Oui.
Donc à cette époque-là, on jouait sérieusement, mais vraiment sans se prendre au sérieux, c'était vraiment, vraiment un jeu. Alors maintenant, je me posais la question de savoir si on disait des joueurs ou des salariés.
Ah, ben c'est intéressant ça, Patrick, et vous faites bien de venir à l'antenne pour en discuter. Merci beaucoup pour votre appel ce matin dans Je pense, donc j'agis. Dominique Malère, je reprends les valeurs listées par Patrick à l'instant, le dépassement de soi, la joie, le collectif, l'esprit d'équipe, et on pourrait rajouter le fair play, et j'en passe, mais ce sont vraiment des valeurs, vous, que vous prenez dans l'association Rebond, qui se trouve à Toulouse.
Oui, mais disons que quand on accompagne des jeunes en difficulté, puisque le Rebond s'occupe en particulier des gamins des quartiers dits quartiers populaires, quartiers politiques de la ville, ce sont des gamins qui sont déjà une forme de fragilité, à la fois économique, à la fois sociale, à la fois sur un plan de personnalité. Il faut pouvoir les accompagner, et ces valeurs qui viennent d'être nommées par cette personne de Clermont, c'est celles qui vont permettre finalement à ces gamins-là de reconstruire des parcours, d'arriver à s'émanciper aussi d'un certain nombre de difficultés. Donc on est sur ces valeurs-là. Il se trouve en plus que on a fait un choix à rebond, c'est de faire des accompagnements importants et en temps, puisqu'on accompagne certains enfants sur des durées qui peuvent être de 8 à 10 ans par exemple. Hein, on a des accompagnements individuels parce qu'on sait que c'est... On n'aide pas forcément ces enfants simplement en faisant des actions sur une journée ou des manifestations sur une journée. Oui. Aider un gamin à se reconstruire ou aider un adulte à remettre le pied à l'étrier, ça nécessite du temps. Hein, et souvent, malheureusement, on donne pas le temps nécessaire pour de cette reconstruction. Et le rugby, avec ses valeurs, avec sa façon de jouer, permet aussi... L'intérêt du rugby, c'est qu'on peut être petit, on peut être gros, on peut être grand... On a sa place sur le terrain. C'est comme dans la vie. C'est, le rapport se fait de cette façon-là aussi.
Et ça, on en a aussi beaucoup parlé dans la première partie de Je pense donc j'agis. Francis Carré, on entendait Patrick il y a un instant nous parler peut-être des changements dans le rugby professionnel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que c'est vrai que l'argent a pris une place importante, trop importante dans le rugby professionnel ?
Oui, alors je partage pas tout à fait ce point de vue. Alors d'abord, je voudrais dire bonjour à mon ami Dominique Malher, que je vois pas mais que j'ai entendu.
Bonjour Francis.
Non, j'y souscris pas complètement parce qu'en fait, le rugby professionnel, le top 14, même la Pro D2, c'est un petit, c'est la vitrine en quelque sorte, mais ça représente pas l'ensemble des pratiquants de rugby. Le rugby des villages existe toujours. Le rugby dans les quartiers, nous on en fait la. Avec Rebond, on a fait la promotion aussi. Je pense que la pyramide des pratiquants est bien plus large que la vitrine dont on parle. Alors après, il faut aussi se dire que même si on est nostalgique de certaines choses, il y a toujours eu un peu d'argent dans le rugby aussi, pas comme aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas les mêmes stars, c'était moins international, il y avait moins de joueurs étrangers en France notamment. Ils sont attirés effectivement par les salaires, mais ils sont attirés aussi par le niveau du jeu. Qui est pratiqué en France au niveau professionnel. Donc ça, c'est vrai que c'est un sujet, oui. Mais c'est aussi la vitrine. Et derrière la vitrine, le magasin ne se résume pas à la vitrine. Donc je suis un peu plus mesuré pour résumer le rugby simplement au professionnalisme et à l'argent, même si ça a aussi des inconvénients. Alors après, parce que c'est vrai qu'il y a une dimension dans ce cas-là qui disparaît un peu, c'est la dimension de la fidélité au maillot, au village, à la ville. Alors il y en a encore, hein. Je pense que ça n'a pas disparu, il y a des Bordelais qui jouent à Bordeaux, tout comme il y a des Toulousains qui jouent à Toulouse. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'on a aussi des gens, parfois qu'on qualifie de mercenaires, j'aime pas trop le mot, parce que c'est pas quand même ça s'applique pas, mais qui sont effectivement des salariés. Donc, mais le rugby, c'est beaucoup plus large que ça.
Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Je voulais intervenir hein, sur le sujet parce qu'aujourd'hui moi je suis donc rugbyman actuellement. J'ai commencé le rugby à l'âge de 11 ans. J'étais un peu perdu avant, c'est-à-dire que j'hésitais entre le foot, le basket, un peu comme tout jeune. Et je suis rentré dans le rugby. Et effectivement, comme l'a dit, je ne sais plus le nom de la personne juste avant. Le rugby, qu'on soit gros, maigre ou autre, en fait, c'est une équipe et l'ensemble va créer des valeurs et des valeurs qui sont vraiment similaires à la vie d'aujourd'hui. Le soutien du plus petit, du plus gros au plus petit, de compenser des valeurs vraiment qui sont vraiment globales à la situation, à la vie, à la société aujourd'hui. Et effectivement, le rugby, quand on joue, quand on est avec des copains sur le terrain le dimanche, on se rend compte que on est tous solides. Et qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on oublie un peu à mon sens, parce que la société aujourd'hui fait qu'on a un peu plus de recul sur les autres, on est de plus d'autres, alors que pourtant le dimanche ou même dans les entraînements, quand on est sur le plaisir du rugby, on est vraiment ensemble quoi. Et alors après, mes propos sont pas forcément très cohérents parce que du coup, je parle un peu avec le cœur parce que justement en ce moment, moi j'ai une situation qui fait que je pourrais perdre pied, mais voilà, il y a le rugby à côté qui me fait oublier beaucoup de choses.
Et ça vous fait vibrer quand même.
Ah bah totalement, je prends l'exemple de dimanche dernier où on a été joué contre une équipe où on a pris une dérouillée 70-3, mais par contre on était tous ensemble, on a tous levé la tête ensemble, on était solidaires, quoi qu'il arrive, on n'a jamais rien lâché, et le but aujourd'hui c'est de jamais rien lâcher.
Merci beaucoup Gabriel pour votre appel au 04 72 38 20 23. Dominique Malher, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on rajoute le mot solidarité, tiens, dans les valeurs, on l'avait peut-être pas forcément évoqué, mais Gabriel a vraiment insisté là-dessus, on est tous solidaire quand on joue au rugby.
Oui, c'est. Je pense que. Alors, dans tous les sports collectifs, la solidarité est indispensable. On voit bien que quand on veut briller tout seul, en général, on se fait ramasser, que ça soit au foot ou au basket. Et par contre, quand on veut jouer trop solitaire en rugby, en général, on prend un bouchon. Donc ça rappelle à l'ordre, c'est-à-dire que là, chacun a besoin de l'autre. Et c'est, je crois que c'est ce qu'il faut qu'on traduise ensuite au niveau des enfants, des adolescents qu'on accompagne dans le cadre de notre association, c'est-à-dire à arriver à créer les liens de base qui vont permettre finalement que ce collectif sport se traduise ensuite dans la vie de tous les jours. On intervient dans pas mal d'écoles et dans beaucoup d'écoles actuellement au niveau de l'Occitanie, puisqu'on est sur l'ensemble de l'Occitanie, et le groupe classe qu'on rencontre, la demande qui nous est faite par l'enseignante, c'est de créer cette solidarité entre les élèves, c'est-à-dire d'arriver à créer un groupe classe et que ce groupe soit porteur pour chacun des membres du groupe. Et je crois que ça, c'est un des éléments fondamentaux pour moi. Et le rugby est vraiment un sport qui aide à mettre en place cette notion de groupe, cette notion de solidarité.
On rappelle, Dominique Malher, c'est important que l'association Rebond, dont vous êtes le
président.
Le président, voilà, parce que Francis est le co-président et vous c'est le président, elle existe depuis 2004 et donc vraiment l'objectif c'est d'utiliser le sport et notamment le rugby hein, comme outil d'éducation véritablement et d'insertion sociale. Pour un public, vous dites en situation de fragilité, est-ce que vous pourriez nous parler de ce public justement?
Mais disons que ce public, alors pour la plus grande partie des jeunes qu'on accompagne, mais on accompagne aussi dans d'autres espaces que les quartiers prioritaires dits politiques de la ville, ce sont des enfants bon qui vivent dans un climat qui sont dans des familles qui présentent un certain nombre de difficultés, qui n'aident pas, même si elles le souhaitent, hein, c'est pas qu'elles veulent pas, mais qu'à un moment n'ont pas les moyens de pouvoir aider leurs enfants à s'inscrire dans la ville de la meilleure façon possible. Nous, on intervient on a commencé dès 2004 à faire le choix d'aller intervenir dans les écoles des quartiers prioritaires, REP, REP+, par exemple. Parce qu'on pense que à partir du groupe classe, un groupe classe c'est constitué de personnes qui représentent la vie, c'est-à-dire il y a des petits, il y a des moyens, il y a des gros, il y a des gens aisés, il y a des gens moins aisés. Donc là, à partir de là, on crée cette solidarité et on repère des enfants qui sont en plus grande difficulté. Social par exemple, c'est aussi sur des troubles du comportement, sur des situations qui les amènent à être en grande difficulté et pas pouvoir apprendre, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils sont pas psychiquement prêts à apprendre. Et ces gamins-là, on arrive à les accompagner vers les clubs, on les introduit dans des clubs qu'on a choisi parce qu'on a travaillé avec eux, on les a préparés à recevoir des gamins en difficulté, et on met en place un accompagnement. Si le gamin se trouve bien dans le club, on met en place un accompagnement avec un éducateur socio-sportif, une éducatrice spécialisée, et les parents, puisqu'on associe à ce moment-là les parents dans l'accompagnement. Et cet accompagnement peut être long si c'est nécessaire.
Francis Carré pour l'association Drop de Béton qui existe depuis 1997, là aussi l'objectif, un des objectifs, parce que vous faites quand même beaucoup de choses, mais c'est vraiment d'essayer de former, alors je suis désolé d'utiliser cette expression, mais de former des bons citoyens, est-ce que je peux dire ça?
Tout à fait dire, c'est pas un gros mot, un bon citoyen, la citoyenneté est quelque chose d'essentiel et on le voit bien quand elle n'est pas respectée, mais je vais rajouter quand même deux choses à ce qui a été dit et auquel je souscris totalement pour insister sur la particularité du rugby en tant que justement outil d'éducation. N'oublions pas que le rugby, d'abord, ça se pratique à 15, le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent. C'est-à-dire déjà qu'on a un nombre de pratiquants sur le terrain assez important, ce qui est une caractéristique intéressante, parce que ça peut associer déjà beaucoup de joueurs et beaucoup de bénéficiaires. La deuxième chose, c'est que le rugby est un sport qu'on peut qualifier de violent, mais en tout cas qui est extrêmement codifié.
Ouais.
Et le fait d'avoir des règles strictes, parfois un peu compliquées, mais qu'il faut comprendre, et elles ont toutes une raison d'être, c'est pour protéger les joueurs, protéger le jeu, protéger le ballon, de façon à ce qu'on puisse jouer. Jouer étant c'est le point de départ hein, du besoin qui est satisfait. Et donc, la chose la plus importante qu'il faut comprendre, c'est que la première vertu éducative du rugby, c'est justement le respect des règles. Et à travers le respect des règles, on respecte l'adversaire, on respecte l'arbitre, on respecte aussi ses autres participants, enfin son équipe. Et donc, tous les sports collectifs ont des vertus identiques, mais celle-là, elle est un peu particulière. Ensuite, il y a la notion qu'il faut rajouter également, c'est toute la notion de la structure même du jeu, qui fait que on fait des passes en arrière, on peut pas aller au-delà du ballon. Enfin, il y a beaucoup de règles de discipline qui font que on part d'un sport qui pourrait être l'anarchie totale et on arrive à quelque chose d'extrêmement structuré. Et cette structuration du jeu, effectivement, sur le plan éducatif, c'est très important pour que les bénéficiaires en comprennent l'intérêt. Alors, on n'y va pas du premier coup vers la totalité des règles à assimiler. On pratique, d'ailleurs, tout comme rebond, souvent des rugby dits adaptés au public, aux circonstances. On le simplifie, mais le principe, c'est quand même, les grands principes, c'est cela.
Nicole, vous êtes à La Rochelle et soyez la bienvenue.
Bonjour Melchior. Oui, alors moi c'est un petit clin d'œil rapide, vu le thème de l'émission en tant que Rochelaise, évidemment. Alors moi je ne suis pas adhérente au Stade Rochelais, mais j'y suis de cœur, bien sûr, comme tous les Rochelais pratiquement, puisque quand il y a des matchs, beaucoup de maisons sont en pavoise avec le drapeau du Stade Rochelais. Et je voulais dire que aussi le Stade Rochelais aussi, son succès aussi tient beaucoup à son président Monsieur Merling, qui a une excellente réputation à La Rochelle au niveau personnel aussi, évidemment au niveau bien sûr du rugby, et voilà, et qui, je pense, Monsieur Merling, avec la réputation qu'il a, je ne le connais pas personnellement bien sûr, mais transmet les valeurs auxquelles vous faites allusion là hein, dans cette émission. Et par ailleurs, moi j'avais gagné aussi, deux billets pour un match il y a 2 ans, La Rochelle Montpellier, le premier match. Et j'ai pu voir l'ambiance et j'ai pu voir le fair play surtout, parce que La Rochelle perdait et a gagné au dernier moment et il n'y a pas eu un seul mouvement, une seule invective, etc. C'était vraiment sport au niveau, dans toute la noblesse du mot sport. Voilà.
Eh ben merci beaucoup Nicole, merci pour votre appel au 04 72 38 20 23. J'ai l'impression, Dominique Malher, que le rugby, peut-être plus que le foot, à voir. Et évidemment, on va pas comparer les deux sports, je sais que ça se fait beaucoup malheureusement, mais que le rugby forge l'identité d'une région. Quand il y a un club comme ça, comme Clermont, Toulouse, La Rochelle, et il y en a bien d'autres en France, mais qui ont une popularité, est-ce que vous avez l'impression que ça renforce l'identité d'une ville ou d'une région?
Alors, c'est difficile à dire parce que ça dépend si l'équipe... on va repérer les équipes du top 14 et les villes du top 14 et les régions où on a les équipes qui sont en tête du championnat du top 14. Il y a des identités qui se construisent. Moi, je vois l'identité pour Lens, par exemple, en foot. C'est extraordinaire de voir ce public lensois et cette ferveur, et qu'on retrouve, à mon avis... On peut la retrouver aussi bien dans le foot qu'au rugby. C'est plutôt ce qui me semble très important, c'est ce que disait mon collègue, c'est quand même que, et cette personne qu'on a eue, c'est qu'on peut rentrer dans un stade, moi je peux y amener des enfants, je peux y amener n'importe qui dans un stade de rugby, j'y vais avec une grande tranquillité.
Ouais.
J'ai perdu cette tranquillité quand je rentre dans un club, dans un stade de foot pour un match. Voilà, ça me, c'est plutôt autour de ça que qui me semble qu'il y a quelque chose qui s'est un peu perdu, comme si finalement le stade de rugby c'était une quelque chose de contenant, de structurant, d'accompagnant. Il y a quelque chose qui fait qu'on y est bien, quoi. Il y a une espèce de cocon, hein, même si on se heurte, même si sur le terrain il y a des chocs violents, ça fait partie du jeu. Quand on est sur un stade de foot, parfois moi j'ai l'impression qu'on est dans l'arène. Et c'est plus tout à fait la même chose. Les liens qu'il y a entre les spectateurs sont pas de même nature.
Bah, les spectateurs, voilà. Et les supporters, ça, et c'est supporters. Sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Francis Carré?
Oui, j'en pense. Je suis assez proche de ce que vient de dire Dominique. J'ajoute quand même que sur le public, alors je vais parler en bordelais. On a le public le plus régulier du Top 14, c'est l'Union Bordeaux-Bègles, qui est une union d'ailleurs. C'est aussi une particularité historique. Et il y a effectivement une grande ferveur. J'ajoute une dimension, peut-être qui explique aussi une partie du comportement, c'est qu'on joue avec un ballon ovale. Ce ballon ovale, il est capricieux parce qu'il peut rebondir d'une manière imprévisible. Ouais. Et ça force aussi à accepter pour ceux qui pratiquent, tout comme pour ceux qui sont spectateurs, que tout soit pas prédéterminé et qu'il y ait une part non pas de hasard seulement, mais d'impondérable dans ce jeu, et il faut l'accepter en tant que tel. Ça fait partie intégrante du jeu, et c'est extrêmement important. Bon, on le dit pas souvent, mais je pense que c'est vraiment extrêmement important, parce que ça structure aussi dans la tête des joueurs le fait que tout peut pas être déterminé, tout peut pas être défini par les qualités individuelles ou collectives. Il y a aussi une part d'impondérable. Et ouais. C'est la vie. La vie, elle est comme ça, en fait. Hein.
Ouais. Vous avez parlé du Top 14, Francis Carré. Alors, peut-être qu'on peut expliquer un peu ce que c'est, parce que on entend souvent cette dénomination dans les médias sans forcément savoir ce que c'est. C'est quoi, Francis Carré, le Top 14?
C'est ce qui s'appelait autrefois la première division. C'est-à-dire, c'est l'élite du rugby en France. Il y a 14 équipes. C'est pour ça que ça s'appelle Top 14. 14 équipes qui se rencontrent par voie de match aller-retour, et ensuite à la fin de la saison les 4 premiers sont qualifiés pour les phases finales, et on désigne ensuite par match éliminatoire un champion. Le champion, il reçoit ce qu'on appelle le bouclier de Brennus, qui est une espèce d'antiquité, mais qui est convoité par tous les clubs et qui est le titre suprême pour la France. Voilà pourquoi ça s'appelle Top 14. Alors après, le Top 14, il y a la Pro D2, ce qu'on appelle la Pro D2, c'est la deuxième division, où là aussi des clubs professionnels, et ensuite on trouve des divisions inférieures, nationales, fédérales, une, etc., ouais. etc.
Et donc ça, c'est jusqu'à vraiment en France, hein.
C'est vraiment... l'échelon le plus bas. Pardon ? Ouais.
C'est en France, c'est son entre...
Ça, c'est pour la France. Voilà. Alors après, tous les pays ont des formats différents, parce que vous avez par exemple le rugby irlandais, c'est des régions... c'est plus limité, il y a beaucoup moins de matchs qu'il y en a en France, parce que mine de rien, 14 équipes, ça fait quand même beaucoup de rencontres. Et puis l'Angleterre est un format un peu proche aussi de la France, mais avec moins de clubs également. Ça pour les principaux. Le championnat gallois aussi, il est restreint, parce que donc la France est quand même un cas particulier.
On va continuer d'en parler dans un instant, Francis et Dominique, et c'est bien, on fait un peu de pédagogie en plus, c'est formidable. On accueillera Maxime dans un instant au 04 72 38 20 23. Venez nous parler des valeurs du rugby, en quoi c'est une école de la vie, est-ce que vos enfants, vos petits-enfants sont inscrits dans un club de rugby. On vous attend à l'antenne, à tout de suite.
Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Si vous avez été membre d'un club de rugby quand vous étiez plus jeune, au-delà de l'aspect physique, est-ce que c'était une sorte d'école de la vie où on vous a appris des valeurs citoyennes et sociales? Et si vos enfants ou petits-enfants font partie d'un club, est-ce que vous avez l'impression que ça les change ou que ça les transforme? Et puis, plus généralement d'ailleurs, pensez-vous que le sport est vecteur d'éducation et de citoyenneté? On vous attend au 04 72 38 20 23 pour venir discuter avec nous à l'antenne et avec nos invités. Petrified, thinking I couldn't live without you by my side, and after spending
was strong and I learned how to get along. Now you're back from outer space and I find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock or made you leave your key. If I'd have known for a second you'd be back to bother me. Go on, go, walk out the door, turn around now, you're not welcome anymore. You're the one who tried to hurt me with goodbye. Think I'd crumble, you think I'd lay down and die. No, not all, I will survive long as I know how to love. I know I'll stay alive. I've got my life to live and all my love to give, and I will survive. I will survive. It took all my strength not to fall apart, trying
Gloria Gaynor sur RCF. I will survive. Et je pense que cette chanson, vous l'avez beaucoup chantée, non, Dominique et Francis, lors des matchs, parce que je crois que c'est une chanson qui est très populaire. Alors certes dans le football depuis 98, mais aussi dans les stades. Dominique.
Oui, mais il y a beaucoup d'autres chansons qui sont jouées dans les stades, notamment par les bandas et reprises par le public. Alors il y en a tout plein. C'est plutôt des chansons du terroir que. Ouais. Que des chansons internationales, mais celle-là en fait partie. Mais on a plutôt souvent des chansons locales de la variété française adaptée et bon qui entraîne aussi fortement le public. C'est vraiment ça fait partie. C'est une dimension importante aussi du plaisir d'aller dans les stades.
Ça rejoint la joie qu'évoquait tout à l'heure. Je crois que c'était Patrick.
Oui, de son, je pense qu'aujourd'hui, un match de rugby sans musique, sans bandas, comme dit Francis, ça manque. Il y a quelque chose qui manque. La preuve en est, c'est que même quand on organise, nous, des tournois pour les jeunes, on s'organise toujours pour qu'il y ait une bandas. Ça fait partie complètement. Et donc là, alors c'est vrai que l'aviron bayonnais, la région de Bayonne est porteuse de cette façon de vivre et de joie. Je crois que ça fait partie intégrante, oui. Un stade, c'est une chose, mais un stade sans musique, sans bandas, ça nous manque.
Voilà, Dominique Mahler, je rappelle que vous êtes le président de l'association Rebond qui se trouve à Toulouse et Francis Carré, co-président de l'association Drop de Béton qui se trouve à Bordeaux. On parle de rugby, rugby comme école de la vie ce matin dans Je pense donc j'agis. Maxime nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Maxime.
Bonjour.
On vous écoute.
Eh ben, le rugby, j'aime bien parce que je regarde souvent à la télé et puis bon, bah. Par contre, je suis pas trop d'accord avec les arbitres.
Oui. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord?
Parce qu'ils donnent souvent des cartons jaunes et des cartons rouges et c'est pas forcément leur faute aux joueurs s'ils font des fautes. Hein.
Et vous regardez le rugby seul en général? Vous aimez bien regarder les matchs en ce moment de la Coupe du Monde?
Oui.
Eh ben écoutez, merci beaucoup Maxime d'avoir pu témoigner ce matin dans Je pense donc j'agis. C'est vrai que parfois on n'est pas vraiment d'accord avec les rugby, avec les arbitres, Dominique Mahler. Il faut faire avec.
Ouais, je trouve que ils sont tous, même s'il y a des erreurs, mais qui n'en commet pas. Mais je trouve qu'il y a une proximité entre l'arbitre et les joueurs qui est quand même assez particulière dans ce comme je crois que c'est le seul sport où l'arbitre colle au jeu, colle aux joueurs et avec lequel il y a des échanges permanents. C'est quand même quelque chose de bien particulier et c'est quelque chose qu'on essaye nous en tous les cas quand on accompagne des gamins, quand on organise des séances de rugby avec les gamins, là aussi ça compte énormément et ils sentent ce lien qui est à côté d'eux et on leur permet finalement justement d'éviter le carton jaune ou le carton rouge. Quand on écoute un joueur qui écoute l'arbitre, va commettre très peu de fautes. Hein, donc il y a un garant du jeu, il peut se tromper et ça fait partie, moi j'allais dire que ça fait partie du jeu aussi, hein, et on voit bien d'ailleurs que dans le monde du rugby, c'est extrêmement rare qu'un joueur agresse un arbitre ou râle après un arbitre. On voit très bien que dans le rugby, quand il y a un joueur qui est par terre, c'est que vraiment il a pris un tampon, qu'il a été secoué. Ouais. Il fait pas semblant, il va pas se rouler 10 fois par terre en hurlant. C'est une des caractéristiques du rugby aussi, quoi.
Je voulais un message de Savine elle nous a laissé ce message dans le groupe Facebook, je pense. Donc j'agis en maman inquiète. J'ai dans un premier temps orienté mon fils vers l'escrime plutôt que vers le rugby qui me faisait un peu peur. Mais à 9 ans, il a découvert le rugby à Tahiti et c'était parti pour une passion. Il a eu la chance de faire partie du pôle rugby d'un lycée à Brest. D'un ado mal considéré parce qu'un peu enrobé, ça en fait un jeune homme heureux, musclé et hyper motivé tant sur le plan scolaire que sur le plan sportif. En classe de terminale, il a tout de même fallu gérer avec un nez cassé de nombreux soins pour une oreille abîmée. Mais ça valait le coup, nous dit Savine. J'ajoute qu'il s'est fait de très bons amis aussi dans ce cadre. Ça forme des jeunes solides, solidaires et prêts à s'engager dans la vie. Moi, je trouve ça hyper intéressant, Francis Carré, ce témoignage de Savine, parce que ça résume vraiment tout ce que vous dites depuis le début de cette émission. Ça résume aussi l'objectif de vos associations. Savine qui nous dit ça forme des jeunes solides, solidaires et prêts à s'engager dans la vie.
Ben, je pense que cette dame, elle a tout dit. En tout cas, elle a dit beaucoup de choses importantes qu'on ressent et qu'on pratique au quotidien. C'est la dimension aussi de fraternité, de camaraderie qui naît effectivement d'un sport collectif, mais celui-là peut-être au moins autant, sinon plus que les autres, parce que dans la mesure où c'est un jeu qui est quand même dur, ben finalement, à partir du moment sûrement de ses difficultés, il engendre la confiance et il engendre aussi la solidarité, donc c'est une vertu importante. Je vais juste revenir un mot sur l'auditeur précédent qui parlait des arbitres, juste pour dire que malheureusement souvent il y a que l'arbitre qui connaît parfaitement les règles du rugby, et souvent à la fois le public et les joueurs, même certains joueurs pro avec qui j'ai pu parler, comme c'est un sport dont les règles évoluent pour protéger les joueurs, tout le monde, tous les publics comprennent pas toujours la décision qui est prise. Mais il est certain que les arbitres font une preuve de grande pédagogie, et c'est à tous les niveaux dans la formation, et en France, la formation des arbitres est excellente. Alors, voilà, moi je voulais juste revenir sur ce point.
Vous faites bien. Christian, vous êtes à Poitiers, et on vous écoute. Bonjour.
Oui, bonjour. Oui, je suis à Poitiers, je suis à RCR Poitiers, moi. Et donc, je vous appelle parce que je suis diacre depuis 12 ans. Et j'ai été, dans ma vie professionnelle, j'étais kinésithérapeute, j'ai joué un peu au rugby. Je suis très heureux que vous parliez de rugby aujourd'hui parce que j'ai été le kinésithérapeute du Stade Poitevin Rugby pendant 29 ans. Donc, je suis très heureux d'entendre les propos de vos invités aujourd'hui. Mais je voudrais rajouter un petit quelque chose, c'est parce que maintenant, en tant que diacre, malheureusement, vu mon âge, je célèbre plutôt souvent les obsèques d'anciens rugbymen du stade. Et à chaque fois, je leur dis dans mes homélies que les valeurs du rugby sont très très proches des valeurs chrétiennes. Et ça, c'est vrai, je l'ai vérifié, travaillé. Et c'est vrai qu'il y a tout dans le rugby. Il y a la solidarité, l'amitié entre nous, la formation d'un joueur avec l'autre, tous les types de morphologie. Enfin bon, tout ce que vous avez dit, tout ça, c'est vrai. Mais je leur dis souvent, regardez les points communs qu'il peut y avoir encore avec nos valeurs chrétiennes qu'on essaie d'enseigner. Voilà la petite touche que je voulais apporter ce matin.
Eh ben, ça aussi, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Christian, pour cet appel ce matin dans Je pense, donc j'agis. Dominique Mahler, ça aussi, on en a beaucoup parlé, mais plutôt dans la première partie de Je pense, donc j'agis. Ce sont ces valeurs, finalement, qui se partagent. Christian parlait des valeurs chrétiennes. Ce sont de toute façon des valeurs de solidarité, d'entraide, de collectif.
Oui, on est dans le monde de l'humain, on est sur des positions humanistes, le rugby permet le combat. Elle permet le combat, mais elle permet le combat dans quelque chose de structuré, avec des règles. Et souvent, le problème de beaucoup d'enfants que l'on a, c'est que finalement, cette question du rapport au corps est toujours quelque chose de très complexe. La question de le rugby permet finalement de socialiser le combat, de socialiser la lutte, de faire que finalement quelque chose qui pourrait être interdit d'une façon dans la vie courante est permis sur un terrain, mais parce qu'elle est codifiée, on en a parlé, parce qu'elle est accompagnée, et je crois que cette mettre son corps en avant, c'est quelque chose de qui est extrêmement compliqué dans la vie et de plus en plus. On n'a pas parlé, par exemple, on fait un gros boulot par rapport à la question homme-femme, hein,
oui.
On a mis en place tout un travail de ce qu'on appelle laisser au féminin, parce que le problème, c'est que là aussi, le rugby féminin est en train petit à petit de prendre et de gagner sa place au sein du monde du rugby.
Mais il faut le favoriser, il faut le développer.
Mais il faut le développer, il faut pouvoir arriver à permettre à... Alors, et c'est d'autant plus difficile, compliqué pour les quartiers populaires, les jeunes filles des quartiers populaires, que les terrains sur lesquels les enfants évoluent, c'est souvent des terrains qui sont les terrains des garçons et où les filles n'ont pas le droit d'y mettre les pieds. Et quand on organise nos laissés au féminin, on organise des séances de rugby pour les jeunes filles après l'école, donc dans le cadre de l'après-école, et on le fait au milieu du quartier, sur les terrains qui sont d'habitude ceux que les garçons investissent. Donc on montre au quartier, on montre aux autres, aux garçons, on montre aux grands frères le fait que ces jeunes filles peuvent évoluer sur un terrain au cœur de la cité avec le rugby comme médiation, comme capacité finalement, en utilisant le rugby comme médiation pour leur permettre finalement de gagner leur place, finalement de les aider à gagner leur place. Ouais. Et je crois que ça, après, ça a des effets sur beaucoup de choses.
Alors c'est le cas pour l'association Remonde, dont vous êtes le président, Dominique, et je rappelle qu'il se situe en Occitanie, à Toulouse. Francis Carré, c'est pareil.
Sur huit départements.
Ouais. Francis Carré, pour Drop de Béton, là aussi, il y a une vraie volonté de développer le rugby féminin, ou en tout cas de donner la possibilité à de jeunes filles de s'intégrer dans des clubs.
Alors, historiquement, effectivement, les pratiques dites de découverte dans les quartiers sont mixtes la plupart du temps. Et très rapidement, on s'aperçoit que les jeunes filles, elles sont de facto exclues, soit parce que les garçons sont trop violents, soit parce que les familles sont réticentes. Et donc, ça crée au cours du temps un risque d'isolement un peu plus important des filles par rapport aux garçons. Donc nous, notre réponse a été de dire, alors un peu à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque, c'est de dire, bon, mais il n'y a pas de club. Et il faut rajouter aussi que les clubs accueillaient peu de filles parce qu'il y avait peu de rugby féminin était peu développé. Donc on a pris le parti, il y a une dizaine d'années, de créer réellement un club à l'intérieur de Drop de Béton, même si c'est pas notre vocation, un club uniquement réservé aux filles. Et donc on a trois niveaux, on a une école de rugby pour les petites filles à partir de 6 ans, et là, si vous voulez, on s'attache à s'entourer de l'accord des familles, on va chercher les gamines, etc., et on les entoure de manière très très forte. Avec que des éducateurs, tous nos éducateurs sont des éducateurs spécialisés, tout comme chez Romain, c'est la même philosophie. Et on a une équipe cadette et une équipe senior. Et de ce fait, il y a une continuité, si vous voulez, dans la pratique féminine. Ce qu'il n'y aurait pas si on n'avait pas fait cette création il y a une dizaine d'années. C'est la même philosophie d'ailleurs pour d'autres populations exclues. Hein. On en a peut-être pas beaucoup parlé, peut-être que ça fera l'objet de discussion ultérieure, mais sur la partie handicap, où on avait aussi créé, il y a un peu plus longtemps, une équipe de rugby fauteuil pour des gens tétraplégiques, parce que eux-mêmes avaient perdu toute vie sociale et toute capacité à faire du sport à partir du moment où ils avaient été accidentés ou malades. C'est un peu la même idée, c'est créer des équipes lorsque il n'y a pas d'autre solution pour nos publics, étant entendu que la voie normale, je dirais, c'est d'aller dans des clubs.
Je vous lis un message d'Anthony qui, alors il était sur l'autoroute, donc il n'a pas pu s'arrêter, mais il nous a laissé un message et il nous dit « Le rugby, c'est un sport de combat, ça implique le respect de l'arbitre, c'est comme un porte-clés, il faut l'avoir dans sa poche. » Anthony nous dit « Ça m'a apporté beaucoup au niveau de l'engagement physique et de ma transformation physique. » Pour le respect vis-à-vis des autres, le lien que cela crée entre les hommes sur le terrain, c'est à la vie et à la mort. Et pas forcément à l'extérieur, les joueurs sont un peu des frères d'armes. Alors Anthony, malheureusement, il a arrêté car il a eu des problèmes de dos. Eh ben oui, c'est le rugby. Et maintenant, il fait de la boxe. Il a 32 ans, je précise, Anthony. Là aussi, Dominique Malher, c'est très inspirant. Anthony nous dit, c'est à la vie et à la mort. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu brutal quand même comme expression.
C'est un des mots forts, mais... en tout état de cause, il y a quelque chose qui, quand on voit des matchs qu'on a vus et qu'elle est Afrique du Sud, Irlande par exemple, on peut voir quand même que ils vont loin quand même dans le combat, hein. Mais combat structuré, protégé, avec un arbitre qui fait bien son boulot. Moi, ce qui m'importe, ce qui m'a, disons, été important pour moi, qui n'a pas été joueur de rugby véritablement. C'est quand même ce que j'ai senti dans le rugby, c'est que ça pouvait aider des gamins qui pouvaient être en difficulté personnelle et qui avaient aussi des difficultés à vivre dans le groupe. La question de la socialisation. Et j'étais à ce moment-là directeur d'établissement recevant des publics avec des troubles du caractère et du comportement, et ces adolescents étaient infoutus de vivre ensemble. Donc les éducateurs avaient tendance à très individualiser les projets de chacun gamin, mais le collectif était oublié. Et j'ai fait venir Rebond dans l'établissement pour des séances de rugby, adapté avec des gens qui avaient la pédagogie nécessaire, et on s'est rendu compte que ces gamins qui pouvaient pas vivre ensemble dans la journée, qui se foutaient sur la figure, sur les temps éducatifs, sur les temps scolaires, là étaient capables progressivement de créer une unité et de pouvoir cohabiter, et plus que cohabiter petit à petit, pour faire équipe. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé dans la, au sein de l'établissement spécialisé dans lequel j'étais, ce qui fait qu'aujourd'hui, et ça s'est poursuivi, et Rebond intervient dans pas mal de ce qu'on appelle des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, ou des instituts médico-éducatifs, et on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui est très aidant pour des enfants qui sont en difficulté psychique, qui sont en difficulté, qui ont du mal, qui ont des seuils de frustration relativement bas, et qui là, dans le cadre d'un rugby éducatif, hein, je dis bien un rugby qui a été pensé, réfléchi, et des séances de rugby où la pédagogie est essentielle. Mais ça montre que ce média rugby peut être très aidant par rapport à ses enfants et ses adolescents.
Laurent nous dit, je reviens sur les valeurs humaines, sociales, en me souvenant de la fraternité qui existait dans notre équipe. L'entraîneur et même sa femme étaient nos seconds parents, sans les remplacer. À l'adolescence, les jeunes se confiaient plus à eux qu'à leurs parents. Et 40 ans après, quand on se retrouve sur un terrain ou en ville, la fraternité existe toujours. Notre club était rural et le monde agricole y était bien représenté. Je me souviens de l'odeur du lait dans les mêlées. Ben voilà, peut-être quelques anecdotes qui reprennent vraiment ce qu'on se dit depuis le début de cette émission. Alors, on parle d'éducation dans cette émission et ça tombe bien puisque chaque mercredi, on en parle également avec notre chroniqueuse. Et notre chroniqueuse, c'est Marion Denis du think tank Vers le Haut. Bonjour Marion.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Vous nous parlez d'inclusion à l'école ce matin.
Oui, exactement. Alors l'inclusion consiste à permettre à chaque citoyen, y compris aux plus défavorisés, de participer pleinement à la société, notamment en exerçant un emploi. Et tout ça commence par l'école dès le plus jeune âge. Malheureusement, les enseignants sont encore trop démunis face à l'école inclusive. D'après une récente enquête de l'IFOP, 95% des enseignants s'accordent à dire que c'est une charge de travail supplémentaire. Et pour 80% d'entre eux, c'est une source de tracas et de contraintes.
Alors comment faire pour mettre en place ce qu'on appelle l'école inclusive ?
Alors cela reste encore très difficile malgré une loi en 2005 concernant l'inclusion des élèves en handicap en milieu scolaire qui affirmait le droit pour chacun à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de leur domicile, à un parcours scolaire continu et adapté. Heureusement, de beaux projets émergent pour pallier ces manques de considération de cette loi. C'est le cas de Signes de Sens, une association qui conçoit des dispositifs inclusifs facilitant l'apprentissage pour des personnes aux besoins spécifiques, que ce soit sensoriel, psychique ou physique. Signes de Sens, en tant qu'acteur de la transformation vers l'école inclusive, travaille également avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale. L'association s'appuie sur une méthodologie qui consiste à mettre les publics au cœur de son analyse, rencontrer l'écosystème pour le comprendre, identifier les demandes et apporter des solutions sur mesure.
Alors quel type de dispositif conçoivent Signes de Sens pour les enfants ?
Alors, l'association propose une offre en édition selon les besoins, allant de la découverte d'un ouvrage à la formation, en passant par l'édition personnalisée d'un jeu. Les différentes collections d'outils pédagogiques permettent aux enfants dès 2 ans de faire leur premier pas dans les apprentissages en s'initiant au plaisir de la lecture tout en favorisant l'interaction avec les adultes et l'inclusion. Les outils sont particulièrement adaptés aux enfants avec difficultés d'apprentissage, handicap cognitif ou auditif, mais s'adressent également aux enfants sans handicap.
Cette notion d'école inclusive, Marion, c'est un sujet que vous creusez chez Vers le Haut.
Oui, tout à fait. Vers le Haut publiera d'ailleurs le 10 octobre un décryptage sur l'école inclusive qui porte un regard analytique sur ses évolutions, qui se veut prospectif à renfort d'initiatives éclairantes et de pépites éducatives que nous mettons en lumière régulièrement sur cette antenne. Donc rendez-vous le 10 octobre sur notre site verslehaut.org.
Merci beaucoup Marion Denis. C'était nécessaire d'en parler de cette inclusion à l'école. Et ça rejoint également, Dominique Mallaire, un peu ce que vous faites dans l'association Rebond, c'est-à-dire que à travers la promotion des valeurs du rugby et du sport, eh ben on arrive justement à inclure tous les enfants, tous les jeunes qui sont en situation de fragilité.
Alors on arrive à permettre à certains jeunes de rentrer dans des clubs. C'est pas possible pour tous, malheureusement. Pourquoi ? Parce que certains ont des fragilités trop importantes et qui nécessitent des accompagnements plus spécialisés. Mais l'objectif, il est quand même bien de permettre à des enfants de rentrer dans des clubs, mais des clubs qu'il faut aussi accompagner, parce que l'inclusion ne se décrète pas comme ça. Il faut aussi une certaine pédagogie, une certaine compréhension des difficultés du jeune, de la difficulté aussi des parents, c'est-à-dire d'accepter aussi que si on veut qu'un gamin il rentre dans un club, eh bien il va falloir aller le chercher chez lui, il va falloir l'accompagner dans le club, il va falloir que l'éducateur socio-sportif, le samedi après-midi, il aille voir jouer le gamin aussi de temps en temps pour que le lien soit suffisamment fort. C'est pareil au niveau du secteur spécialisé, par exemple. Ce qui a été important, c'est que les interventions qu'on fait dans les établissements spécialisés permettent à des jeunes finalement aussi d'arriver à rentrer dans des clubs et que l'inclusion se fasse pas que par l'école, parce que pour certains c'est pas possible, mais l'inclusion c'est aussi au moins aller dans un club, au moins sortir du quartier, parce que pour nous, pour les gamins qui sont dans des quartiers prioritaires, ce qui est important pour nous, c'est d'arriver à ce qu'ils sortent du quartier, qu'ils s'émancipent du quartier aussi à un moment donné de leur vie. Oui. Pour construire leur projet, leur véritable trajet pour eux.
Ouais. Leur projet, leur ligne de vie aussi et leur chemin. Je vais vous demander un exercice un peu compliqué. Je sais que les invités n'aiment jamais ça. De définir le rugby en un mot. Alors définir, en tout cas nous dire ce que ça vous apporte dans votre vie. Je commence avec vous, Francis Carré.
Moi, je vais reprendre le mot qu'on avait adopté conjointement d'ailleurs avec nos amis de Rebond dans l'organisation d'un colloque qui s'est tenu au mois de juillet dernier. Et on avait appelé ce colloque le rugby, un jeu de société, montrer le caractère à la fois social et l'impact qu'il pouvait avoir sur le plan des relations, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la citoyenneté. C'était une phrase qui résumait à peu près toute notre philosophie.
Voilà, le rugby, un jeu de société. Et vous, Dominique Mahler ?
J'avais fait rajouter sur ce colloque, et j'avais dit un enjeu de société.
Ah oui, bon bah. On n'est pas très loin. Jeu de société et puis enjeu de société. Merci beaucoup à tous les deux. Peut-être un pronostic pour le prochain match de l'équipe de France le 6 octobre à 21h contre l'équipe de l'Italie en Coupe du Monde.
La victoire, la France.
Bah, je pense que le contraire m'aurait étonné.
Ça devrait être...
Ça va être serré ou ça devrait aller ?
Non, c'est dans l'ordre des choses. Il y a pas, on va dire 90% parce que ça reste un sport quand même avec des possibilités de surprise, mais ouais. À 90% c'est bon pour la France.
Bon, on verra alors, hein. On prendra des nouvelles ensemble. Merci vraiment à tous les deux, Dominique Mahler et Francis Carré. Rendez-vous sur votre site internet drop-2-beton.fr pour en savoir plus, et puis asso-rebond.com, rebond en pluriel, et on mettra les liens, vous inquiétez pas, sur notre site rcf.fr.
Merci beaucoup.
Merci à toute l'équipe, à Antoine et Catherine à la réalisation. On se retrouve demain, de 9h à 11h, dont Je pense donc j'agis, on va parler de la passion pour la musique classique. C'est un tout autre sujet, mais il y a beaucoup de choses à dire également. À demain, bonne journée.